comme chaque semaine, on vous propose un ouvrage qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est La loi de l'entropie et le problème économique de Nicolas Georgescu-Rogen qui a attiré notre attention. Bonjour Antoine Mismer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, chargé de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage, Nicolas Georgescu-Rogen, pour une révolution bioéconomique, paru aux éditions de l'ENS. Alors d'abord, qui était Nicolas Georgescu-Rogen, cette figure tutélaire du courant de la décroissance?
Alors Georgescu-Rogen est d'origine roumaine. Donc c'était un mathématicien de formation. Il est venu à l'économie dans les années 30. Et il a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis. Donc dans les années 30, il rencontre Schumpeter, donc le grand théoricien de la destruction créatrice. Et puis après un petit retour en Roumanie dans les années 40, il revient aux États-Unis dans les années 50, où là, il va à Nashville, donc dans une toute autre université, où il va faire l'ensemble de sa carrière. En travaillant au début de sa carrière, il avait travaillé sur des sujets ordinaires de l'économie, la théorie du consommateur ou d'autres sujets comme cela. Puis il est venu aux questions de développement, aux questions d'économie agraire et aux questions de ressources naturelles au tournant des années 70. Sa carrière est assez longue parce qu'il est décédé au milieu des années 90 et a continué d'écrire presque jusque-là. Donc souvent c'est un personnage qui s'est marginalisé au fur et à mesure de sa carrière. Il a une part de responsabilité pour ça. Le contexte institutionnel et de la discipline économique a aussi sa part de responsabilité.
C'est pour ça qu'il a raté le prix Nobel, par exemple. Il était un temps pressenti.
Certains vont dans ce sens-là.
Et alors, pour Georgescu, c'est la biologie évolutionniste de Darwin qui peut le mieux expliquer l'économie. En quoi l'économie a-t-elle des traits biologiques, selon lui ?
Alors oui, il y a en effet deux disciplines qui sont très importantes pour lui. La biologie évolutionniste d'un côté, la thermodynamique de l'autre côté. Alors pour la biologie évolutionniste, l'idée principale, c'est en s'inspirant d'un autre biologiste et statisticien, Alfred Lotka, Georgescu-Rogen explique que le processus économique, la production de biens et services, est en réalité une extension de l'évolution biologique. Pendant des millénaires, les êtres humains se sont développés comme d'autres espèces avec des mutations génétiques qui ont changé leurs organes, leurs membres. Et puis, au bout d'un moment de l'évolution, c'est ce qu'il appelle des instruments exosomatiques, donc des membres extérieurs à lui-même, typiquement des outils, qui l'ont aidé à agir sur le monde. Et donc, la production d'outils, c'est ce qu'étudie l'économie. Donc, l'économie, en ce sens-là, est un prolongement de l'évolution biologique.
Et c'est en cela qu'il critique l'économie orthodoxe, qui s'inspire de la mécanique classique, conçue pour des phénomènes atemporels. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que l'économie, c'est une science de la vie.
D'une certaine façon, c'est ça. En tout cas, sa critique du paradigme néoclassique, qu'il dit extrêmement mécaniste, s'inspire à la fois de cette dimension biologique et puis de la dimension thermodynamique que j'évoquais, c'est-à-dire la physique de la chaleur, qui se développe au XIXe siècle, donc après la mécanique newtonienne, bien après, qui a mis à jour tout le corpus de la physique, mais que les économistes ont tendance à négliger. Et donc ce que dit Georgescu-Rogen, c'est qu'il faut tenir compte à la fois des éléments de biologie et des éléments de thermodynamique. En thermodynamique, il y a deux principes fondamentaux que reprend Georgescu-Rogen. Le premier principe, c'est un principe de conservation de l'énergie. Dans un système donné qui n'échange pas d'énergie ou de matière avec l'extérieur, la quantité d'énergie totale est fixe. Et le deuxième principe, c'est la loi de l'entropie, donc qui est important puisque ça apparaît dans le titre de l'ouvrage que nous discutons aujourd'hui. Ce deuxième principe stipule que dans ce même système, qui n'échange rien avec son environnement, l'énergie disponible a tendance à se dégrader irrémédiablement. C'est-à-dire, l'entropie, qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure de cette dégradation.
Et pour prendre un exemple très concret, pour bien comprendre ce concept d'entropie, on peut prendre l'exemple du tube de dentifrice.
Alors oui, alors c'est très approximatif parce que le dentifrice, c'est pas de l'énergie. Donc les physiciens tomberaient peut-être de leur chaise, mais c'est assez parlant. C'est l'idée que lorsque vous vous brossez les dents, vous ne retrouvez absolument pas le dentifrice dans l'état qu'il était quand il était dans le tube avant de l'utiliser. Et ce changement d'état, bien sûr, est irréversible. Je vous souhaite bon courage si vous souhaitez remettre le dentifrice dans le tube.
Et c'est pour cela qu'il écrit, je le cite, « Pendant longtemps, les économistes ont aimé dire que rien ne pouvait s'obtenir gratuitement, mais la loi de l'entropie est plus sévère que cela. Non seulement rien n'est gratuit par rapport à l'environnement, mais en plus, tout coûte toujours plus cher qu'il ne vaut. »
Tout à fait. Parce qu'il y a cette maxime de l'économie qui dit qu'il n'y a jamais de déjeuner gratuit. Et donc, ce qu'explique Georgescu-Rogen, c'est que c'est pire que cela. Non seulement tout coûte, mais en plus, tout coûte toujours plus que ce que l'on peut obtenir.
Et alors qu'est-ce que cela veut dire, tout coûte toujours plus que ce que l'on peut obtenir ?
C'est cette idée que la loi de l'entropie, par son caractère totalement irrémédiable, quelles que soient nos actions, nous ne pouvons pas la contourner. Cette loi, bien sûr, je le disais tout à l'heure, elle est valable dans un système qu'on dit clos, qui n'échange rien avec l'extérieur. On peut imaginer que notre système Terre, par exemple, est alimenté par l'énergie du soleil, qui est une source d'énergie qui vient de l'extérieur. Mais ce qu'explique Georges Scourgen, c'est que dans nos sociétés industrielles, tout notre régime énergétique repose sur des énergies fossiles, qui, elles, viennent pas de l'extérieur. C'est un stock limité que nous avons à notre disposition. Et donc, en dépendant uniquement de ce stock fini, eh bien, on accélère l'entropie de notre système. Et donc, à chaque fois qu'on crée une action qui est censée nous produire un bien économique, en réalité, on le fait au prix d'éventuelles productions de biens économiques futures, puisque notre stock total d'énergie est fini.
Ce qu'il faut dire, Antoine Mismer, c'est que l'ouvrage de Georges Scourgen qui nous occupe aujourd'hui a été publié en 1971, et c'est un moment où les sociétés développées commencent à prendre conscience de leur dépendance aux hydrocarbures et des limites de leur modèle de croissance.
Tout à fait, l'ouvrage est publié dans un contexte où ce n'est pas le seul ouvrage sur ces thématiques qui surgit. C'est l'époque où le Club de Rome travaille sur le rapport Meadows, qui sera publié sur les limites de la croissance en 1972. C'est une époque aussi où les préoccupations écologiques environnementales, notamment dans le monde anglo-saxon, sont de plus en plus importantes. En revanche, l'ouvrage de Georges Scourgen a cette spécificité d'être extrêmement ambitieux dans ce qu'il propose non seulement pour la théorie économique, refonder un paradigme, et ce qu'il propose pour les politiques publiques et les comportements économiques des citoyens en tant que consommateurs, producteurs de richesses.
Alors avant d'en venir à ces propositions, ce qu'il faut expliquer peut-être, Antoine Mismer, c'est que ce n'est que dans les années 70 que les ressources naturelles sont à nouveau considérées comme des facteurs de production, tout comme le travail et le capital. Qu'est-ce que cela implique ?
Ce que dit Georges Scourgen dans ce contexte-là, c'est que non, les ressources naturelles ne sont pas accessoires. Elles ont un statut de facteur originel, parce que si vous n'avez pas de denrées alimentaires, par exemple, vous ne pouvez pas renouveler le travail. Et si vous n'avez pas de matières premières, vous ne pouvez pas construire de machines. Donc, sans ressources naturelles, rien ne se produit.
Et c'est dans ce contexte qu'il invente ce qu'il appelle la bioéconomie. Son but, c'est de réconcilier activité économique et contraintes environnementales.
Oui. Ça, c'est l'objectif général avec un projet qui fait système globalement. C'est-à-dire le projet bioéconomique, c'est un projet sur des fondations épistémologiques par rapport aux disciplines scientifiques, la biologie, la thermodynamique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est aussi des propositions de théorie économique, parfois très techniques, difficiles à percevoir. Et puis, c'est enfin un troisième étage qui sont un ensemble de propositions pratiques. Par exemple, il parlait de programmes bioéconomiques avec des mesures de politique publique, des mesures éthiques, des mesures techniques aussi.
Un programme qui passe par le fait notamment de diminuer la population.
Alors c'est l'idée que seule une agriculture biologique est soutenable à long terme, si je le traduis en termes contemporains, et donc compte tenu des surfaces agricoles utiles que l'on a actuellement au niveau planétaire, et du niveau des rendements de l'agriculture biologique, il est probable qu'on ait une limite à la population totale. Alors quel est le niveau exact de cette population totale ? Est-ce que c'est inférieur à la situation actuelle ? Est-ce que c'est supérieur à la situation actuelle ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours cette question des limites qui survient.
Lui ne se prononce pas sur cette question.
Il donne l'expression mathématique de la limite, mais il ne chiffre pas jusqu'à dire de façon irrémédiable.
Vous parliez de ces propositions techniques et aussi de ces propositions éthiques. Il faut, écrit-il, se rééduquer de façon à ressentir quelques sympathies pour les êtres humains futurs, de la même façon que nous sommes intéressés au bien-être de nos voisins contemporains. C'est en cela qu'il est extrêmement moderne, Antoine Mismer.
Cette question, c'est la solidarité intergénérationnelle qui est posée à ce moment-là et qui est un peu un pavé dans la mare des économistes également, parce que lorsque les économistes parlent de dynamique à l'époque, où ils sont censés considérer des générations les unes après les autres, ils le fondent face avec des hypothèses si restrictives que ça a un sens mathématique, mais ça n'a pas forcément de sens si on parle en termes d'éthique intergénérationnelle. En revanche, lui pose la question clairement, dans un contexte où la loi de l'entropie s'applique, il y a forcément des choix à faire entre l'énergie qu'on peut utiliser aujourd'hui et celle qu'on pourra utiliser demain.
Et en même temps, il ne croyait pas au développement durable, qu'il qualifiait de faux remède ou de poudre de perlimpinpin. Pour quelle raison ?
Alors il s'est rapidement rendu compte, je vous disais qu'il avait écrit jusqu'à la fin de sa vie, au début des années 90, donc la notion de développement durable à ce moment-là est déjà sur la table. il s'est rapidement rendu compte que le terme de développement durable pouvait être facilement dévoyé. La croissance verte ou des mesures uniquement technologiques qui ne prenaient pas en compte les aspects éthiques de politique publique que j'ai évoqués tout à l'heure.
Oui, pour lui, le progrès technique ne peut pas intégralement résoudre cette question environnementale.
Non, le progrès technique est une partie de la solution, mais qui ne fait sens que s'il est extrêmement exigeant, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas, par exemple, des terres rares, et s'il est accompagné des autres types de mesures. Et donc, il était sensible à ce dévoiement possible de la notion de développement durable.
Je le disais en introduction, on en a fait une figure des différents mouvements de la décroissance. Pourtant, ce terme de décroissance n'apparaît jamais dans son œuvre. Alors comment, a posteriori, a-t-on fait de lui ce père de la décroissance ?
La filiation entre George S. Scourgen et la décroissance se fait de façon différente entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, c'est-à-dire que le terme décroissance en français apparaît plus tôt que le terme degrowth, son équivalent en anglais, parce que dès 1979, Jacques Greenwald et Ivo Rens ont proposé la traduction de plusieurs textes de George S. Scourgen en français. Ce livre existe, est toujours disponible, il s'intitule « La décroissance », en utilisant ce terme. Et George S. Scourgen était a priori tout à fait d'accord avec l'utilisation de ce terme, qui montrait en tout cas la radicalité de ses propositions.
Mais lui, il parle de decline, pas de degrowth.
Mais voilà, mais lui, dans ses écrits en anglais, jamais apparaît le terme de degrowth. Il parle plutôt de decline parce que mon interprétation, elle n'est pas forcément partagée par tous, mais mon interprétation, c'est que lui insistait beaucoup sur le changement qualitatif. Et à l'époque où il écrit, la notion de décroissance renvoie beaucoup à l'augmentation ou la baisse de mesures économiques, d'agrégats économiques comme le PIB, mais sans forcément aller jusqu'au bout du changement qualitatif dans nos modes de vie, dans nos modes de produire, dans nos modes de consommer.
Un dernier mot, Antoine Mismer, sur l'héritage de la pensée de George S. Scourgen. Que nous a-t-il laissé ? Quel est aujourd'hui l'héritage de sa pensée ?
Alors, sur l'ensemble de ses propositions bioéconomiques, ce sont essentiellement les courants de la décroissance qui se réapproprient un certain nombre de ces propositions. On remarquera aussi que certaines de ces prises de position, que ce soit sur l'agriculture biologique, que ce soit sur la promotion des énergies renouvelables, font plus écho à des propositions qui sont devenues presque classiques dans le débat public, parce qu'on a 50 ans d'évolution technologique et institutionnelle derrière nous, depuis le moment où il a écrit. En revanche, ce qu'il lègue, je pense, et ce qui fait que le lire est toujours extrêmement utile, c'est qu'il pose énormément de questions de recherche, qu'il pose beaucoup de questions aussi aux citoyens qui, tous les jours, consomment, produisent, distribuent des richesses. Et ce qu'il met en évidence, c'est qu'on ne peut pas penser la transition écologique sans s'interroger aussi sur nos représentations du monde, sur les rapports entre l'homme et la nature, et que de ce point de vue-là, même si certains pans de sa pensée méritent mise à jour et sont critiquables, le lire me semble tout à fait pertinent encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Mismer de nous avoir éclairé sur cette œuvre phare de Nicolas George Scourgen. Je renvoie les auditeurs à votre livre Nicolas George Scourgen pour une révolution bioéconomique paru aux éditions de l'ENS. Un grand merci.